à tout le monde. Nous allons lire trois portions d'écriture. D'abord Isaïe chapitre 9, verset 5e. Isaïe chapitre 9, verset 5. Et puis nous lirons aussi Isaïe chapitre 2, verset 4, d'où nous allons tirer notre thème. Isaïe 2, 4, et nous terminerons du moins dans cette partie introductive avec Luc au chapitre 2, verset 8 au verset 17. Isaïe chapitre 9 au verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, mais surtout Prince de la paix. Isaïe, chapitre 2, verset 4. Il, c'est de Jésus-Christ incarné dont il est question, il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Et de leur glaive, le peuple forgeront des hoyaux, et de leur lance, des serpes. Et qu'est-ce que j'aime, la phrase qui termine ce verset. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ça, c'est les rêves de Dieu. On n'apprendra plus la guerre. Luc, au chapitre 2, verset 8, au verset 17. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici en quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et les petits enfants couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ces petits enfants. En ces jours ou en cette période où le monde entier, quand je dis entier, c'est une manière de parler, célèbre ou va célébrer la fête dite des nativités à laquelle on donne toutes sortes de noms. Et quand je parle de célébration, je parle de célébration pour diverses raisons. Les uns célèbrent pour des raisons spirituelles, même si la Bible nous appelle principalement à célébrer sa mort et sa résurrection. Je n'ai jamais été contre ceux qui veulent donner une emphase à sa naissance, mais bibliquement parlant, on n'a aucun verset sur lequel on peut s'appuyer pour dire coûte que coûte. Mais d'autres aussi les font pour des raisons culturelles. D'autres encore, et ça c'est le plus grand nombre, ils ont fait de cette célébration une bonne occasion économique. Ils en rêvent, ils réfléchissent d'avance, ils voient dans toutes sortes de moyens pour vous soutirer de l'argent. Quand j'étais petit, je pensais que Père Noël était biblique. Je croyais fermement les cadeaux qu'on retrouvait le matin, c'était un être spirituel qui les déposait jusqu'à ce que je grandisse un peu, que je comprenne que le fameux Père Noël, c'était mon père. Les plus tristes,
C'est quand tu verras au soir du 24 ou au matin du 25 quelqu'un ivre titubant, joyeux Noël. Je me demande de quel Noël il s'agit. Mais ce qui est sûr, il est venu un jour au monde et il est venu avec un but. Et ce matin, alors que l'on banalise de plus en plus cet événement, Dieu m'a mis à cœur de parler de quelque chose que cet enfant est venu faire. Et j'aborderai cet enseignement en quatre points. Je parlerai premièrement du rêve des restaurations de Dieu, les rêves qu'il y a dans le cœur du Père. Je parlerai deuxièmement de la chute de l'homme, ainsi que ses conséquences dans le cœur de l'homme premièrement, et deuxièmement dans ses rapports avec l'autre. Troisièmement, je parlerai du second Adam, mais qui est aussi le prince de la paix. Et je terminerai en parlant quelques mots de la signification de la venue du Christ. Luc chapitre 2 nous relate cet événement, cet épisode où le Verbe s'est incarné, devenu chair. Et des bergers ont eu l'information qu'un être spécial venait de voir le jour. Et ils ont entendu des paroles ineffables chantées par la meilleure des chorales. Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et quand Esaïe, 700 années avant que le Christ ne puisse venir, a eu la révélation de ce que Christ allait être, il a certes dit à un enfant, a été donné. On l'appellera de plusieurs noms, mais il a surtout insisté, on l'appellera prince de la paix. Et dans Esaïe chapitre 2, au verset 4 que nous avons lu, là les rêves du Père nous est mentionné. C'est que le Père a dans son cœur. Et j'aime comment ces propos sont traduit. On dit non à la destruction, mais oui à la production. On dit de leur glaive, ils forgeront des hoyaux. De leur lance, des serpes, ce qu'on utilisait pour détruire, ce qu'on utilisait pour faire mal à l'autre. Dieu dit non. Prenez ces outils métalliques, ne les utilisez plus pour faire mal. Utiliser ces outils pour la production. Mais j'aime surtout ce que le Père exprime, et ça c'est, je crois, le cri qui vient du plus profond de lui. Il dit, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et quand on parle des nations, on ne veut pas simplement parler d'un groupe organisé. Le terme qui est utilisé là, ethnos, veut simplement parler de groupe de gens. Un groupe de gens ne lèvera plus la main contre un autre. Mais surtout, il est dit, on n'apprendra plus la guerre. On ne va plus se transmettre des connaissances dans le but de faire mal et détruire. Quand il dit, on n'apprendra plus la guerre, c'est que pour le moment, on l'apprend. Il dit, ça va cesser. Et j'aime encore toujours Esaïe, chapitre 14, au verset 7. Monte d'un cran pour parler de ses rêves. Toute la terre jura du repos et de la paix. On éclatera en chant dans les graisses. On n'apprendra plus la guerre. Les mots guerre tels qu'exprimés ici cachent quatre idées principales. Premièrement, ça veut dire action menée contre toute autre chose à laquelle on attribue une valeur nocive. Une action menée contre toute chose à laquelle on attribue une valeur nocive. Et cette action a comme but la maîtrise et pourquoi pas la destruction, guerre. Deuxièmement, le mot guerre veut dire rapport conflictuel qui se règle par l'utilisation des armes en vue de défendre un territoire, un droit ou des idées. Mais c'est aussi rapport conflictuel qui se règle par l'utilisation des armes en vue de conquérir ou de faire triompher des idées ou des idéaux. Nous en parlerons tout à l'heure quand nous citerons les multiples raisons pour lesquelles les gens font ou se font la guerre. Troisièmement, guerre veut dire aussi lutte armée entre deux groupes avec comme finalité la soumission et même l'élimination de l'autre. Et puis enfin, quatrièmement, guerre veut dire lutte dirigée dans un domaine particulier contre une personne ou un groupe de personnes. On apprendra plus cela. Dieu veut que cette chose cesse. Dieu veut que cette activité cesse. Trois principes intermédiaires que j'aimerais que vous et moi nous puissions noter. Le premier principe, c'est que les gens ou les nations se font la guerre pour diverses raisons. On se fait la guerre pour obtenir un droit, pour défendre un droit, pour protéger des intérêts, ou pour obtenir des intérêts, pour faire triompher des idées. Et même les notions sur la guerre ne font qu'augmenter, que dans certaines contrées, on parle de guerre préventive. J'attaque l'autre pour l'empêcher demain de m'attaquer. Et on justifie la guerre avec toutes sortes de notions, avec cette célèbre phrase que ceux qui ont fait les latins connaissent, si vic pacem, para bellum. Qui veut la paix, prépare la guerre. On dit, si tu veux être en paix, arme-toi. Écrase l'autre. Détruis-le avant qu'il ne puisse te détruire. Deuxième principe, c'est qu'au-delà de la seule force, l'intelligence est aussi sollicitée ou mise au service de la guerre. Il y a des académies militaires où on étudie comment faire mal. Des gens mettent leur intelligence pour se communiquer des connaissances en matière de destruction. On apprend à faire la guerre. Il y a des gens qui ont des diplômes, que des livres qui se transmettent dans les services secrets, dans les armées, les politiques l'ont venu de ces célèbres et semble-t-il brillants stratèges asiatiques, l'art de la guerre. Tout le monde essaie de lire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? On met l'intelligence et on réfléchit comment faire mal, bien, vite, rapidement, avec suffisamment d'effets. On met tellement l'intelligence qu'on est allé jusqu'à réfléchir à l'arme atomique. Non, dépenser les balles, c'est trop de dépenses. Est-ce qu'on ne peut pas gazer les gens? Simple respiration, ils meurent tous. Réflexion. Intelligence, homme, votre intelligence, vous l'utilisez pourquoi? Dans les services secrets, partout ailleurs, on réfléchit même comment bien éliminer. J'ai suivi ce documentaire où on a parlé d'un célèbre politique congolais à l'époque. Les gens n'étaient pas d'accord avec lui et on a voulu l'éliminer en mettant du poison dans sa pâte à dentifrice. Prêt à tout pour faire mal. Faire mal bien. Et vite, dans 2 Chroniques chapitre 26, verset 15, là nous nous parle des premiers pas dans les progrès. Est-ce que je peux appeler ça progrès? En rapport avec la guerre. Avant, c'était des flèches, des fléchettes, des machettes. Et puis voilà, quelqu'un a mis son intelligence au profit de la guerre. Écoutez ce que la Bible dit. Ozias fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. destiné à être placé sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Intelligence, mon service du mal. Aujourd'hui, nos commandos forts, nos agents secrets, quand on les forme, on leur donne un petit cours d'anatomie, non pas forcément pour connaître l'homme, mais pour connaître les parties vitales. On te dit, il y a un nerf là, tu peux casser quelqu'un comme ça, en 2 minutes il meurt. S'il faut tirer, il ne faut pas tirer là. Voilà l'endroit. Intelligence, mon service du mal. Mais Dieu dit, on n'apprendra plus la guerre. On ne mettra plus son temps et son intelligence au service de comment détruire. J'ai suivi un documentaire, on parlait des agents secrets américains. Et il y a certains qui ont des médailles, et ce sont des tireurs d'élite. S'il vise la tête 10 fois, 11 fois, il réussit. Quand il y a des missions spéciales, on sait que c'est lui. Même à 200 mètres, il sait viser. S'il dit l'œil droit, c'est l'œil droit. Intelligence au service du mal. Mais Dieu dit, on n'apprendra plus la guerre. Le temps me manquerait de parler de la bombe atomique. Le monde a été scandalisé en 1944 quand Hiroshima et Nagasaki ont été bombardés. On n'en parle pas beaucoup. Même jusqu'à aujourd'hui, les effets continuent. Les enfants naissent sans un œil, sans un bras, déformés. Pourquoi? Parce que l'homme a mis son intelligence au service du mal. Le temps me manquerait de parler de la cyanure, de l'arsenic et d'autres poisons utilisés. Je viens il y a 2 semaines avec un groupe d'amis à l'Est. Quel traumatisme! On a peur de tout et de tout le monde. Oh non, on peut les retrouver dans les poignées des portes. Quelqu'un d'autre a dit non, clavier de l'ordinateur. Non, quand vous voulez tenir votre véhicule pour ouvrir. Un ami m'a dit à l'Est, il dit ici à l'Est, les abeilles sont en surproduction. Parce que la consommation de miel est terrible. J'avais quelqu'un qui m'avait accompagné, sûrement averti par sa femme qui ne voulait pas devenir veuve. Il avait une quantité de désinfectants. Il saluait 2 ou 3 personnes. Il s'est caché. Waouh! Banga Makambo. Troisième principe. C'est que depuis le meurtre d'Abel par Caïn dans Genèse 4 et 8, avec des moyens archaïques, parce que Genèse 4 et 8 dit Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Depuis ce jour-là, l'homme est devenu une machine à détruire son semblable, sans cœur et sans pitié. Et tant me manquerait de vous donner un petit cours d'histoire. Il y a eu la fameuse guerre des 100 ans entre l'Angleterre et la France, ou du moins une dynastie anglaise et une dynastie française, 1337 jusqu'à 1453. Il semble qu'il y avait des pauses. Il s'arrêtait de temps en temps, mais il continuait. 100 ans. Et puis il y a eu la fameuse Première Guerre mondiale, 14-18. Avec une comptabilité de 19 millions de morts et 21 millions de blessés. Première guerre mondiale. Et tellement horrifié par les dégâts que cette guerre avait causés, les dirigeants politiques de l'époque ont initié ce qu'on a appelé la Société des Nations. Si cette Société des Nations a vu le jour, Plusieurs objectifs ont été assignés à cette société des nations, dont deux principaux. Un, les désarmements, et deuxièmement, la prévention, ainsi que la résolution de conflits par la négociation, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie. Les gens qui sont sortis de la Première Guerre mondiale étaient tellement traumatisés par la quantité de morts qu'ils ont vues, qu'ils ont lancé un slogan devenu célèbre, « Plus jamais ça ». Plus jamais des guerres. Et si vous allez en Belgique, j'ai vu cet endroit, la tour de l'Isère, on a inauguré une grande statue, un monument, en 1930. On a écrit en quatre langues, « Plus jamais ça ». Inauguré en 1930, mais moins de 10 ans après, malgré qu'ils avaient dit « Plus jamais ça », ils ont repris encore des armes. Et la Seconde Guerre mondiale a fait, on dit au minimum, 60 millions. Mais normalement, c'est allé à 70 millions de morts. Ils ont dit « Plus jamais ça !» Mais ils ont refait cela. Et dans les 70 millions de morts, on parle de 40 à 52 millions de civils tués. 13 à 20 millions de morts à cause des maladies et des famines, effets collatéraux de la guerre. Si vous lisez les statistiques, vous serez choqués. Des pays entiers ont été décimés. L'Union soviétique de l'époque a perdu 16% de sa population. La Yougoslavie de l'époque a perdu 6,67% de sa population. La Pologne, 16,7%. L'Allemagne, 8% de sa population. Plus de 6 millions de juifs ont été tués, gazés, assassinés. D'autres sont morts dans des camps de concentration. En 40, quand la guerre a fini, on a découvert l'horreur des camps de concentration. On a vu des personnes chétives, maigres. Je suis vu un documentaire qui m'a fait pleurer. Ça a montré jusqu'où l'homme peut devenir mauvais. Des scientifiques allemands, dont le célèbre docteur Mengele, prêt à faire des tests sur des juifs. On prend une femme enceinte, on est en train de l'électrocuter pour voir qu'est-ce qu'elle ressent et ce que l'enfant ressent. Quand on voulait expérimenter des explosifs, on prenait des enfants juifs, une centaine, on leur faisait sucer des bonbons. La finalité, quand il y avait quatre couches, vous arrivez à la quatrième couche, ça explose. Et sa joie, c'était de voir ses enfants comme ça. Et Dieu dit, on n'apprendra plus la guerre. On n'apprendra plus à se détruire. J'ai à cœur de crier ce matin. Où va notre monde? Notre monde est comme un bateau ivre. Après la Seconde Guerre mondiale, la Société des Nations, on a eu l'impression qu'elle a échoué. Alors viendra... les fameuses Nations Unies. Que les Cunois disent Monique, moi c'est ma bête. Si la Société des Nations avait dit plus jamais ça, les Nations Unies ont été créées à coup de pompe, avec comme, entre autres, comme but la sécurité internationale, la réalisation de la paix mondiale, arrêter la guerre entre pays et fournir une plateforme entre pays. Comme la Société des Nations, ils ont repris le même slogan, plus jamais ça. Mais à peine ils avaient signé en 1945, qu'en 1946 éclata la guerre d'Indochine, 1946 à 1954, 500 000 morts. En 1947 éclata la guerre civile en Birmanie, 500 000 morts. De 46 à 49, éclata la guerre civile en Chine avec 1 200 000 morts. Pasteur, est-ce qu'on a besoin de tous ces chiffres? Épargnez-nous, Jean. Je ne peux pas vous épargner, je veux en parler. 1950 à 1953, éclata la guerre de Corée entre les deux Corées. 2 500 000 morts. De 1954 à 1962, guerre d'Algérie, entre 800 000 à 1 500 000 morts. 1959 à 1975, la guerre du Vietnam, 5 millions de morts. Et pourtant, ils avaient dit, plus jamais ça. Les temps me manqueraient de parler de la guerre civile en Angola, de 1975 à 2002, minimum 1 million de morts. Avec des mines placées par-ci, par-là. À un moment, on a découvert dans certains coins en Angola, s'il y avait 100 personnes, il y en avait 35 qui étaient amputées. À cause des mines. L'homme réfléchit comment faire mal à son semblable. 1977 à 92, guerre civile au Mozambique, 900 000 morts. 79 à 89, guerre d'Afghanistan, 1 million de morts. 80 à 88, guerre entre l'Iran et l'Irak, 1 million de morts. 91 à 2002, guerre de la Yougoslavie, guerre des Balkans, minimum 100 000 morts. Le temps me manquerait de parler de 94 à 95, génocide au Rwanda, où des enfants étaient pillés dans des mortiers. Des bébés ont été frappés contre les murs. Le temps me manquerait de parler des guerres, de la guerre de l'Est du Congo. Viol. On viole des petites filles de 12 ans, de 10 ans. Et le viol, les semble-t-il, une arme. J'ai suivi ce documentaire, je l'ai fini en larmes, parlant de ce célèbre médecin de l'Est de notre parti. On parle de l'homme qui répare les femmes. Souvent, nous avons l'impression que c'est loin. N'arrivons pas à donner une identité à ces choses parce qu'elles ne sont pas touchées directement. Les jours, c'est votre tante, c'est votre petite sœur, c'est votre maman, vous regardez cela autrement. Jusqu'à présent, c'est quelqu'un de sans visage. Et Dieu dit, on n'apprendra plus cela. Les gens n'iront plus dans un auditoire pour réfléchir comment bien détruire l'autre. Comment faire mal à l'autre. Qu'il est étonnant de voir des budgets que des nations mettent de côté pour l'armement. Si on veut mettre la moitié pour l'éducation, la moitié pour les hôpitaux, que des nations iront avant, mais des sommes et des sommes mises de côté pour détruire l'autre. Et Dieu rêve, il dit, on n'apprendra plus. Dieu dit, je veux la production, pas la destruction. Pourquoi ce rêve? Ça me permet de toucher le deuxième point. Parce que la chute de l'homme a eu des conséquences sur l'homme en général. Et surtout dans ses rapports avec l'autre. Dans Genèse au chapitre 6, versets 5 à 6, la Bible nous parle du triste constat du Créateur après la chute de l'homme. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal, sens unique. Dès la chute de l'homme, l'homme est devenu une machine à faire le mal. La Bible dit sa méchanceté est devenue grande. Il a une tendance innée à faire le mal. Et je dirais même, à notre honte, à bien faire le mal. Et les pensées de son cœur se portent uniquement vers le mal. La version française courante dit, les hommes étaient de plus en plus malfaisants. Et les penchants de leur cœur étaient portés de façon constante et radicale vers le mal. La version Darby dit, toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. En tout temps. Et le verset 6 nous montre le cœur de Dieu. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. Il s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et la Bible dit, il fut affligé dans son cœur. C'est comme s'il disait, tout ça pour ça. Il est en train de vivre un cauchemar entre ce qui était son rêve pour l'homme et la réalité qu'il voit. Je me souviens encore la semaine passée, ce qui se passe en Afrique, ici juste à côté, en République centrafricaine, triste. Triste. Et quand j'ai vu ça, je dis, Seigneur, que ces choses ne soient pas exportées chez nous. Cette corruption a touché la partie la plus importante de l'homme, son cœur. Je comprends pourquoi Jérémie pourra dire, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est devenu mauvais. Mauvais à un degré, vous n'avez aucune idée. Aucune idée. L'homme est devenu une machine à faire le mal à des degrés différents. Je suis venu un jour un documentaire, quand je suis resté là, je dis, mais comment les gens peuvent réfléchir comme ça? Des pays qui font des recherches dans les domaines nucléaires. Et quand ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de pollution, tous ceux qu'ils ont comme déchets nucléaires, ils vont les jeter dans certains pays pauvres. Et des fois avec la complicité des politiques. Et si les politiques, comme moi, ils disent, je suis moi du côté de l'intérieur de Sankou. Pour que nous boire des déchets, on a côté Mbandaka. Ngalangulu Bakoufa. Si je suis de ce côté-là, je dirais non. Pour que nous boire un côté Mwanda. Ma faute est à Congo na Bakende. Machine à faire le mal. Le cœur de l'homme est devenu mauvais, mauvais, mauvais. 3 ans avant, je suis venu un jour, sur l'une des chaînes, on a arrêté des jeunes gens à la commune de Kinshasa. Avec des sachets, de l'eau qu'on utilise pour perfusion. Et finalement, on s'est rendu compte que ce n'était jamais de l'eau travaillée médicalement. L'usine, c'est derrière la maison. C'est de l'eau qui vient des robinets. Ce qui les importe, c'est l'argent qu'ils peuvent gagner. Qu'est-ce que ça va faire dans le corps de l'eau? C'est pas leur problème. Que dire de ce même documentaire où j'ai su des faux médicaments? Il n'y a rien d'antibiotique dedans, c'est de la poudre. Envoyé dans certains... L'homme est devenu une machine à faire le mal. Il pense pas à ce qui va arriver. À l'autre, le plus important, c'est ce qu'il va gagner. Que dire des consommateurs qui ne sont pas protégés? Boire des conserves ou autres produits avariés. Et ceux qui devaient protéger les consommateurs, c'est lui qui les a apportés. Je ne sais pas, il y a eu quelques retards, mais il s'est dit, je ne peux pas perdre tout ça. 50 000 $ à quelqu'un, il ferme les yeux, côté sangle. On enlève l'endroit où c'était écrit que c'est on ne peut plus consommer. Et pauvre de nous, ça c'est l'homme. C'est ce que nous nous sommes devenus. Devenus tellement mauvais que les tribus se combattent contre elles, entre elles. De telle sorte que je n'aimerais pas citer la tribu si vous allez ajouter après moi. Certains sont arrivés à dire, si tu rencontres un serpent et un... laisse les serpents. Élimine l'autre. Moi, je ne cite aucun nom. Juste pour montrer jusqu'où l'homme est devenu mauvais. Et Jésus-Christ dira, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le suit, c'est ce qui sort. Il dit, c'est dans le cœur de l'homme qu'il y a des meurtres, qu'il y a des mauvaises choses, le cœur de l'homme. Ce matin, j'aimerais te poser, me poser la question, dans quel état est ton cœur et mon cœur? De Timothée chapitre 3, verset 1 à 3, parmi les nombreuses tares qui vont caractériser les temps de la fin, l'apôtre Paul dit, certes, dans les derniers jours, on aura des temps difficiles, mais il met en exergue deux tares. Il dit, premièrement, les gens seront égoïstes. Égoïstes. Et puis, il ajoute plus loin, ils seront insensibles. Sans cœur. Sans cœur. Que l'autre soit détruit. Que l'autre soit écrasé. Et cela me permet d'aborder le troisième point. C'est pourquoi le Père a voulu envoyer le second Adam, Jésus-Christ. Ce second Adam avait été déjà promis après la chute. Ce que j'aime avec le Père, c'est qu'il a pensé à nous depuis la chute. Dans les jardins d'Éden, quand l'homme a péché, Genèse chapitre 3, verset 15, nous parle de cette parole sorte de la bouche du Créateur, alors qu'il s'adresse au serpent et dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Mais il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et il pensait déjà à notre salut. Elle et son mari ont fauté, mais en elle, elle a la sémence qui viendra corriger la chose. Sa postérité t'écrasera la tête. Et 700 années avant, Isaïe l'a vu. Il a dit, dans ce monde où il y a la guerre, où la destruction en viendra, et on l'appellera prince de paix. Prince du shalom. Prince qui viendra faire cesser les hostilités. Je me souviens, jeune dans la foi, on chantait semaine après semaine ces cantiques à l'église là-bas. Et je voyais souvent quand on chantait, le feu pasteur Vernon pleurait. Shalom, shalom. Quand viendra la paix sur tous les hommes. Shalom, shalom. Nous la voulons, cette paix, shalom. Nous la voulons. Nous la voulons. Et lorsqu'il est venu au monde, des êtres célestes habituellement cachés se sont rendus visibles pour l'accueillir et l'introduire. Des simples bergers, comme j'ai dit, ont entendu les chants de la plus belle chorale. Et comme l'avons lu dans Luc 2, 13 à 14, et soudain, il s'est joint à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, mais surtout, paix sur la terre. » Mais cette paix dont il est question à ce moment-là, ce n'est pas une paix générale. Sur la terre aux hommes qui l'agréent. Un premier pas vers la cessation de la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y aura des hommes qui auront une qualité de vie, qui auront les chalons de Dieu dans leur cœur. La version Nouvelle Bible et Second, il dit paix parmi les humains en qui il prend plaisir. Le prince de paix est venu au monde pour trois raisons. La première, il est venu pour aider les hommes à faire la paix avec Dieu. J'aimerais vous poser la question en ces jours. Avez-vous fait la paix avec Dieu? C'est-à-dire ne plus être en hostilité avec le Créateur. Colossiens 1, 20 dit, Dieu a voulu par Christ réconcilier tout avec lui-même. Tout ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Isaïe 53, verset 7, parlant déjà de sa mort sur la croix, dira, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Deuxième chose, que le Messie incarné est venu apporter, il est venu donner la paix de Dieu aux hommes. La paix de Dieu. Une paix différente de celle des hommes. Et une paix dont lui et lui seul est l'artisan. Parlant à ses disciples, il leur dira dans Jean 14, 27, je vous laisse la paix. Mais puis il ajoute, je vous donne ma paix. Pas celle des hommes. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix avec Dieu, on peut la faire, mais la paix de Dieu, on peut aussi l'avoir. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Oh, la paix que Jésus donne. Colossiens chapitre 3, verset 15, Paul dit, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Avez-vous cette paix? Romains 14, verset 17, Paul ajoute, le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Avez-vous cette paix? Mais troisièmement, le Messie aussi est venu pour faire de nous des agents de la paix. Êtes-vous un agent de la paix? Si vous avez le prince de paix, vous devez être un agent de la paix. Vous ne devez pas être celui qui fait cogner les têtes les gens. Deux personnes ne s'entendent pas et quand on fuit derrière, c'est vous qui êtes derrière. Quelqu'un dit du mal de l'autre, blâmez-le en disant ce que tu dis n'est pas bien. Tu dis rien devant la personne. Tu vas chez l'autre après avoir mangé du bon makayabo. Maman bombangai makamuna yo kaki. Et ou asso zolo bapo na yo. Tris ou ksengai. Yon la mina yibso. Kipa na yé linga kayote. Deux personnes ne vont plus s'entendre parce qu'il y a eu un rapporteur. Je veux être un agent de la paix. Pas celui qui fait cogner les têtes. Ah, je me souviens quand on était tout petit, des fois on se battait même quand on n'en avait pas envie. J'ai jamais oublié, en 73, j'ai été tabassé terriblement à l'Athénée de Kalina par une jeune dame, demoiselle à l'époque. J'avais 9 ans. Elle était dans une classe supérieure, elle était forte. Et puis elle m'a cogné à la récréation. Je me suis fâché un peu, puis elle m'a tenu là. Je savais que le combat était inégal et que je ne pouvais pas gagner. Mais vous savez, il y a des amis à côté. Ngaso qui fille à Simirana Kingofobitumba. Moi, je n'avais pas envie de me battre. Et le temps que je vais parler, elle m'a regardé, dit, maman nayo. La mia dit, Ngasimba papa. Mais son simbi maman Fobitumba. Je savais qu'on n'avait pas les mêmes atouts. Il y a des gens qui ont la capacité de vous provoquer. Et je résistais encore. Je disais, bon, ouais, c'est les anangos gravité. Et l'ami a pris, le système a fini. Deux portions de sable. Il a dit, non, 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 le temps qu'on mette la fille, a fait pas. Je dis, au moins, moi, ça a tché, bon gars. Et puis, je fais aussi. Le temps que j'ai fini, j'étais en bas, elle était sur moi. Elle ne m'a pas donné beaucoup de coups, elle a simplement pris du sable. Je me souviens quand je me suis levé, les mêmes qui m'encourageaient, ils pouffaient des rires en se roulant par terre. De telle sorte que désormais à l'école, je ne pouvais jamais parler. Je n'ai jamais oublié. Vous savez, les gens qui vous ont battu, même 45 ans après, on n'oublie pas, ils s'appelaient Kanjinga. Je n'ai jamais oublié Kanjinga. Je ne sais pas si tu vas suivre le message. Salut Kanjinga. Désormais à l'école, je ne pouvais pas parler. Quand je voulais me chamer avec quelqu'un, ah, Torbenglo Kanjinga dit. Assis ça au carrière. Soit dit en passant, j'ai beaucoup souffert à l'école primaire. Je vous ai relaté ça une fois ici. J'avais le malheur d'être le premier garçon de ma famille. Et mon jeune frère, le pasteur Rémi, arrive à l'Athénée de Kalina. À l'époque, on prenait le bus scolaire à partir des Bandales. Ça tournait, puis ça allait jusqu'à l'Athénée. Et il y avait ce qu'on appelait un bus sur la place à Libella. Les sociétés ont changé. C'était au TCC, TCZ, et puis... Et puis on savait, les bus, il avait 20 places du côté gauche, 24 places du côté droit. Et on savait, quand vous montez dans ce bus scolaire, même si vous montez vers Chibangu, troisième place à partir de la gauche, c'est quelqu'un qui va monter à Kimbondo. Et quand moi j'ai monté, j'étais toujours debout. Parce que je n'avais pas de la place. Rémi, la rentrée scolaire, il entre, il voit le bus vide. Il me voit debout, il me dit, ah, on a eu aux bangani. J'ai dit, moi, les allées comme à Kobangate. Place à battre. Les combles, il est allé s'asseoir à un endroit, c'était un ami, un cousin de mon épouse que j'ai rencontré plus tard, qui s'appelait Jackson. Un garçon qui, on ne sait pas si c'était vrai, il avait la spécialité, quand il te donne un coup de tête, tu commences à ramasser des feuilles. Je ne sais pas si ces choses étaient vraies, mais bon, quand on grandissait, il y en avait. Les rêves ont changé beaucoup de choses dans cette capitale. Et j'ai vu Rémi aller se mettre à la place de Jackson. J'ai dit, Rémi, tel m'a dit, ah, Ngana Rufanda. Je suis allé m'éclipser tout au coin là. J'ai même oublié. À un moment, j'entends simplement un bruit. Et puis j'entends, Nako Bengelo, grand frère, n'engage. Et je vis Jackson qui tirait Rémi, grand frère, dans le WAP. Quand j'ai regardé, j'ai dit, en Kotumbo, la Moutoumoussou, c'était Jackson. Donc je me vois déjà en train de ramasser les feuilles. Je n'ai jamais oublié Jackson, ma tenue là. Et il demandait à Rémi, grand frère, nous y est. N'a occupé que de Jackson. J'ai regardé seulement Rémi. Rémi n'a pas ça qui est venu. Grand frère, nous y est. Rémi, moi, je ne sais pas. Il m'a donné une baffe. Pas hier. Rémi, Rémi, moi. Être grand frère, c'est terrible. Hein? J'avais envie de diminuer l'âge. N'a pas tant mon âge. Fais-nous des agents de la paix. Romains 12, 18 dit, s'il est possible, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. Romains 14, 18 dit, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification. Est-ce que tu contribues à la paix? Dans Matthieu 5, verset 9, ça c'est l'un des versets, je pense, on va reprendre cela mi-janvier. Quand nous allons reprendre sous les béatitudes. Jésus-Christ a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il y a un bonheur à être un homme, une femme qui procure la paix. Est-ce que tu procures la paix? La version française courante dit, heureux ceux qui créent la paix autour d'eux. Nouvelle Bible et seconde dit, heureux les artisans de la paix. Et cette paix pour la donner, et la répandre, il faut la voir. Et pour la voir, il faut avoir les princes de paix. Sans les princes de paix, on ne peut pas procurer la paix tout autour. Moi, quand je vois des gens qui créent de la zizanie, je n'ai pas besoin de savoir. Ça, c'est un indice. Ils n'ont pas les princes de paix. Celui qui a les princes de paix cherche par tous les moyens. Romains 5, verset 1, nous montre comment faut faire pour avoir cette paix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Et je termine avec le quatrième point. C'est pourquoi Christ est venu. La signification de sa venue, Luc 2, 10, 11, que nous avons lu au départ, nous rapporte les propos de l'ange, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Verset 11, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, et le Seigneur. Il est venu pour sauver son peuple, mais il est venu surtout pour arrêter le cauchemar de la guerre, de la destruction. Il est venu pour que les hommes soient en paix avec Dieu, mais en paix les uns avec les autres. En terminant, j'aimerais mentionner ce merveilleux passage de Galates, chapitre 4, versets 4 à 5. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi. Et ce passage nous enseigne 5 petits principes que je vous demande de mentionner rapidement. Le tout premier principe que ce passage nous enseigne, c'est que Dieu n'abandonne jamais sa créature. J'aimerais dire à quelqu'un, le silence de Dieu ne veut pas dire indifférence. Lorsque le temps fut accompli, il a envoyé. Les gens avaient l'impression que le monde était un bateau ivre. Mais le Dieu qui aime son peuple a agi. Deuxième principe que ce passage nous apprend, c'est que Dieu aime ses enfants et réfléchit aux solutions à leurs problèmes. Et il est prêt à payer les prix les plus forts. Non seulement il a accepté que son fils soit incarné, mais il savait qu'à la fin, pour que la justice et l'amour de Dieu soient rencontrés, ses fils devaient mourir et par quelle mort? De telle sorte que le jour où le fils qui est né est en train de mourir sur la croix, le soleil, qui est une créature, n'a pas osé regarder son créateur nu sur la croix souffrant. Le soleil est allé se cacher à une heure où habituellement il ne se cache pas. Troisième principe, c'est que Dieu a un temps d'action. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya. Nous aimons souvent que Dieu agisse quand nous voulons, au moment où nous voulons, mais il a son temps à lui. Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Quatrième et avant-dernier principe, c'est que Dieu fait toujours les choses avec un but. Il a envoyé son fils né d'une femme, mais le but c'était le salut. Et enfin, cinquième principe, c'est que la solution de Dieu est toujours parfaite et définitive. Hébreux 10, verset 4 dit, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs puisse ôter les péchés. Mais Hébreux 9, 12, parlant de Christ, qui dit qu'il est allé entrer dans le lieu très saint avec son propre sang, il a obtenu ce que j'aime, une rédemption éternelle. Quand le petit enfant qui est venu pour faire cesser la guerre a grandi, Jean-Baptiste l'a vu. Il a pointé du doigt en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. J'aimerais en 5 jours nous inviter à baisser nos têtes.